Les universités américaines s'embrasent sur fond d'importation du conflit avec de nombreux affrontements. On en parle avec Jean-Éric Brana, il est maître de conférence à l'ASAS et spécialiste des États-Unis. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université d'Assas et spécialiste des États-Unis ainsi que des relations internationales. Alors, sujet préoccupant et majeur en ce moment aux États-Unis, après une nuit à occuper les campus de l'université de Columbia à New York, des manifestants pro-palestiniens ont été délogés hier soir par les forces de l'ordre intervenant dans l'épicentre de la mobilisation pro-palestinienne sur les campus américains. Alors, pour commencer, Jean-Éric Brana, assistons-nous au final à une vraie arrivée du conflit sur les campus américains et une intervention?
Alors, en réalité, le conflit a depuis un petit moment déjà. On a vu que dès le début des primaires, une grogne s'était installée autour de la candidature de Joe Biden avec des votes blancs, uncommitted, comme il l'a dit à ce moment-là, c'est-à-dire que les électeurs ne choisissaient pas parmi les différents candidats et préféraient cocher une autre case ou dire qu'ils ne votaient pour personne, mais en faisant l'acte de vote. Et puis, c'est vrai que les premiers conflits durs sont apparus à partir de celui de Columbia. Dans d'autres universités, l'université de Californie du Sud a également été très touchée assez rapidement, puis Yale. Et puis, ça s'est embrasé un petit peu partout, au Texas, à Austin. Et maintenant, quasiment tous les points des grandes universités américaines sont touchés. Le fait que la police intervienne cette nuit pour déloger les étudiants qui occupaient le Hamilton Hall est une étape supplémentaire qui va certainement avoir des réactions assez rapidement dans les milieux étudiants, d'autant que, il faut le dire, les étudiants adhèrent assez vite à cette lutte qui représente pour eux beaucoup plus une route vers ou une voie vers la liberté d'expression qu'un véritable mouvement pro-palestinien.
Y a-t-il un risque que les universités perdent le contrôle sur la situation dans les universités, justement, si ce n'est déjà le cas ?
Oui, je crois qu'elles l'ont déjà perdu, effectivement. Elles l'ont perdu parce que ce conflit est d'une nature tellement particulière qu'il est très difficile à gérer. Par très particulière, je veux dire que de mouvement pro-palestinien, on passe rapidement à un mouvement anti-sioniste, voire antisémite. La frontière est quand même très ténue. Et encore plus lorsque vous êtes concerné, à savoir étudiants juifs qui ne peuvent plus rentrer sur son campus, qui se sont attaqués ou qui est attaqué, puisque c'est également le cas, ou qui lit des slogans franchement violents, voire haineux. Tout cela fait que pour les autorités universitaires, c'est devenu bigrement compliqué.
Alors, les autorités universitaires ont donc visiblement perdu le contrôle. Les autorités américaines, de leur côté, comment gèrent-ils ?
Alors, les autorités américaines ne sont pas mieux loties, hein, je veux dire, dans le contrôle de ce conflit. Bon, on l'a dit, cette nuit, Adams, le maire de New York, a envoyé la police sur le campus de Columbia. Ailleurs, on se demande qui il faut faire intervenir et quand et pourquoi et comment. À UCLA, par exemple, il y a eu des événements il y a quelques heures à peine, hein, puisque des contre-manifestants juifs ont attaqué les manifestants palestiniens en estimant qu'ils étaient haineux envers eux et qu'il fallait que ça cesse. La police ne savait pas comment intervenir, a mis du temps, un vrai flottement, avant d'aller séparer les manifestants. Certains se demandent s'ils ne doivent pas envoyer la garde nationale, mais alors là, on passerait à un autre niveau dans la gradation de contrôle de ces manifestations. Et puis au Congrès, aujourd'hui, il va se voter une loi contre l'antisémitisme. Et on ne peut que se féliciter et regretter en même temps le vote de cette loi, sans féliciter parce que c'est absolument nécessaire, effectivement, de le rappeler, mais on peut regretter qu'il y ait besoin de le rappeler et qu'on soit obligé de repasser par une définition de ce qu'est l'antisémitisme, alors que, bien sûr, tout cela devrait être largement géré par les universités depuis le départ.
Jean-Yves Brana, au début de notre entretien, vous mentionniez l'importance de l'importation de ce conflit dans le monde politique américain. Les décisions actuelles sont-elles prises avec en ligne de mire novembre et les prochaines élections ?
Alors oui et non, la loi dont je parlais tout à l'heure sur l'antisémitisme est bipartisane, ce qui est une très bonne chose et absolument nécessaire. C'est vrai qu'il y a eu des arrière-pensées politiques de la part de certains dès le départ, en particulier, on l'a dit, certains républicains qui voyaient là un moyen de taper sur l'extrême-gauche américaine. Mais l'extrême-gauche américaine, il faut le dire aussi, se tape dessus toute seule, hein, puisqu'elle est elle-même piégée dans ce conflit, ne sachant plus très bien comment se positionner, même si certains l'ont fait très clairement. Bernie Sanders, par exemple, est clairement du côté des étudiants et se déclare pro-palestinien et demande que toute aide à Israël soit arrêtée immédiatement, ce que font également les membres de ce qu'on a appelé le squad, Alexandria Ocasio-Cortez, qui maintenant est mondialement connue, et d'autres qui le sont un petit peu moins, Ilhan Omar ou Rachida Tlaib. Rachida Tlaib étant elle-même d'origine palestinienne et bien sûr ayant une sensibilité encore plus forte que d'autres dans ce conflit. Donc la prise de position politique est quand même pas simple, et certains l'ont évité très prudemment. Je pense à Chuck Schumer, le leader des démocrates au Sénat, qu'on n'a pas entendu ou très peu, et qui a évité soigneusement, alors qu'il est élu de New York, d'aller à Columbia à la rencontre des étudiants.
A-t-on déjà eu des précédents d'une telle ampleur ? On pense peut-être à la guerre au Vietnam, mais les États-Unis étaient complètement engagés dans cette guerre.
Oui, on pense à la guerre au Vietnam, on a raison d'y penser, hein. Moi-même, j'ai fait le rapprochement assez rapidement, d'abord parce que la guerre au Vietnam était une congrégation de beaucoup de luttes. C'est les années 60, on a le mouvement des droits civiques qui monte, on a un mouvement pour la paix, contre la guerre, contre la conscription. On a le mouvement de la jeunesse qui veut vivre quelque chose de différent par rapport à leurs parents. On a un mouvement de lutte culturelle, un mouvement féministe qui se développe, un mouvement anti-discrimination. Et en réalité, tout cela aujourd'hui se retrouve dans le conflit que nous avons, si on veut bien le regarder, parce que les étudiants qui rejoignent le mouvement le font pour tout un tas de raisons. Il y a l'angoisse face à la crise à laquelle ils assistent à Gaza en regardant leur télévision, la réprobation contre les autorités universitaires, on en a parlé tout à l'heure, la révolte contre la police, l'engagement en faveur d'une justice intersectionnelle, ça c'est pour les plus à gauche, où ils considèrent que le combat de n'importe quel groupe devient leur combat à eux. Il y a le désir idéaliste, faire partie d'un effort communautaire, et le sentiment que le combat pour les Palestiniens est un peu la poursuite de ce qui avait commencé il y a quelques années avec le mouvement Black Lives Matter. Donc on a là aussi un conglomérat d'énormément de choses qui fait que commenter ce conflit ressemble beaucoup à un commentaire qu'on aurait pu en faire en 68, et il faut savoir le regarder pour ce qu'il est. Pour résumer tout ce que je viens de dire, une attente de changement de la part de cette jeunesse qui se cherche de nouveaux repères et qui ne se reconnaît pas dans une année électorale, dans les deux candidats qui aspirent à représenter l'Amérique pour leur futur. Et tout cela crée une angoisse existentielle assez forte.
Pour finir, on change de sujet, mais c'est tout de même lié. Aujourd'hui, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le secrétaire d'État Anthony Blinken ont entamé une réunion privée à Jérusalem. Rapidement, Jean-Éric Brana, qu'en attendre ?
Alors, en attendre, déjà l'affirmation que Israël s'engage effectivement à respecter le plan qu'elle vient de proposer au Hamas, à condition que le Hamas tende la main aussi et fasse des efforts pour aller vers la libération des otages et un véritable véritable plan d'acceptation de ce que lui propose Israël, qui est, faut le dire, comme l'a dit Blinken, extrêmement généreux, et surtout la demande de Blinken qu'il n'y ait pas de poursuite de cette politique israélienne dans le sud de Gaza, et en particulier à Rafah. Et là, c'est un point très difficile, puisque à la droite de Netanyahou, certains poussent très fort pour que justement il y ait cette poursuite. Et là, c'est un point d'achoppement avec les États-Unis qui est extrêmement, extrêmement fort.
Jorek Brana, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Assa, spécialiste des États-Unis ainsi que des relations internationales. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Je vous en prie.